When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello! Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césarienne, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi. Qu'on me donne aussi à voir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, eh ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle « Retrouver le pouvoir d'enfanter » et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes? Parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la Fnac, que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'ils commandent de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon, et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février, encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode.
Ok, bon, je te propose qu'on commence, Perrine. Moi, j'aime toujours bien commencer, quand on discute comme ça, par essayer de comprendre un peu qui tu es et ton rapport à la maternité et l'accouchement, d'une part et d'autre part. C'était quoi un peu ta vision de l'accouchement, donc cet acte qui peut faire très peur, comme pas du tout, mais voilà, comment tu voyais ça quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu savais que tu aurais des enfants? Enfin, c'était quoi un peu ton image de tout ça?
Alors moi, j'avais une image assez stéréotypée, dans le sens où, dans ma famille, hein, du côté de ma mère, elles ont été mamans très jeunes. Donc, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Et dans mon idée, je rêvais qu'elle soit arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Bon, les choses ont été que ce n'était pas le bon partenaire de toute façon. Donc, ce n'était pas le moment. Donc, on va dire que j'ai un peu dérogé à la règle de la famille d'avoir des enfants très proches de la vingtaine. Et finalement, la vie a fait que, non, moi, c'était plus proche de la trentaine, en fait.
D'accord.
Mais on va dire que je ne m'étais pas forcément posé de questions, clairement, sur la naissance en elle-même. J'ai commencé à vaguement m'en poser quand j'étais enceinte de mon premier. Parce que, bon, là, c'est pareil, ça a été un petit peu un parcours un petit peu long, dans le sens où quand on s'est décidé à se lancer dans les essais, eh ben, il a fallu 15 mois pour que cela se mette en place. Donc, okay. Je suis passée par quelques tests assez sympathiques. Et du coup, voilà, je ne m'étais pas forcément posé la question du tout sur la naissance en elle-même. Puis moi, j'ai commencé à aller un peu sur des forums, à l'époque d'Octissimo. Il y a eu l'idée du « pourquoi pas ?» Ouais, essayer à la maison. Pour mon premier, je me suis dit pourquoi pas, mais sans aller plus loin que ça. Et puis moi, voilà, mon partenaire à l'époque n'était pas trop chaud sur le côté logistique. Et finalement, voilà, ça s'est vite soldé. part, hein, on va laisser tomber tout simplement parce que mon premier était en siège avec la tête en arrière. Je ne sais
Okay.
plus à quel terme, mais enfin, on était loin du terme en lui-même, justement. Donc, en y réfléchissant maintenant, ça n'a pas de logique. Donc, en gros, on m'a dit ce sera une césarienne programmée. Parce que j'avais essayé, enfin, j'aurais bien voulu quand même essayer par voix basse. Et c'est là la fameuse phrase sympathique du gynéco qui dit oui, enfin bon, c'est le plus gros que vous sortez à la fin, hein, faut pas lâcher. Hein. Bon, bah d'accord, on va partir sur une césarienne programmée du coup. Mais dans mon idée au départ, oui, j'aurais bien voulu donner naissance chez moi. La question ne m'était même pas venue à l'idée de savoir avec ou sans sage-femme parce que je ne savais même pas comment ça se passait vraiment. Mais j'avais envie d'essayer sans péridurale. Donc ça, c'était aussi une chose que voilà, je me suis dit pourquoi pas.
Et est-ce qu'il y avait des récits dans ta famille? Parce que tu dis que les femmes avaient des enfants tôt. Est-ce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et même ta mère, est-ce que comment on te parlait de l'accouchement si on t'en parlait?
Alors non, on m'en parlait pas.
Ah ouais.
Je savais dans les grandes lignes que enfin pour ma mère, ça avait été juste l'horreur.
OK.
Enfin, la boucherie, il n'y a pas d'autre mot pour les trois, donc moi je suis l'aînée. Et voilà, donc je sais quand je lui avais dit que je voulais essayer sans péridurale, c'était la phrase classique encore une fois, mais pourquoi tu veux souffrir? Voilà. Donc on va dire que j'ai pas eu vraiment non plus de discussion au niveau des accouchements avec mes grands-mères. C'est seulement quand il y a eu le petit dernier que il y a des choses qui se sont dites, on va dire.
Ah ouais.
Ouais.
Parce que toi, t'en as quatre, c'est ça? Trois ou quatre?
J'en ai quatre, ouais.
Ouais, t'en as quatre, c'est ça. Donc, pour ton premier, il y a un siège qui est détecté, on te dit césarienne programmée, et tu y vas. Parce qu'évidemment, on te fait peur et tout ça. Comment ça se passe à césarienne?
Bah, comme je dis souvent, il n'y a pas grand-chose à dire sur une césarienne, d'autant plus programmée, on va dire, parce que bah, pour avoir déjà subi une opération, bon, bah, on va dire que ça reste une opération, tout simplement. Et justement, pendant très longtemps, je me suis toujours dit que j'avais bien vécu mes césariennes, en fait. Donc, que
Ah
dire?
oui.
Non, vraiment pas grand-chose, en fait. C'est.
Ouais. Tu y vas, on te met une anesthésie et tu sens pas vraiment ce qui se passe et puis on sort ton bébé. Et... Enfin, moi, c'est un peu l'image que j'ai, mais.
Et alors, il y a tout le préparatif d'avant en plus. Alors maintenant, ça commence un peu à changer, mais il fallait venir la veille pour le lendemain matin. Donc, dès la veille, être à jeun, faire la douche à la bétadine, être perfusé.
Ouais.
Et puis ensuite, on nous prépare le matin avec la sonde, avec enfin, les trucs bien, bien sympathiques et agréables. Moi, je suis comme ça quand je suis stressée, je plaisante. Donc, j'ai plaisanté avec tout le monde dans la salle, dans le bloc opératoire. L'avantage ce jour-là, c'est que. C'était bien en fait d'être dans un bloc opératoire. Il faisait 43 degrés à l'extérieur. C'était en 2011, le 27 juin 2011, donc il faisait vraiment super chaud dehors. Donc on va dire c'était, je vois voir le côté positif. On était dans un endroit climatisé du coup. Mais voilà, c'était une césarienne entre guillemets en famille où mon gynéco obstétricien était là. C'était son père l'anesthésiste et celle qui a fait les suites de couches, c'est sa sœur.
Oh bon bah, d'accord. Et donc, tu as l'impression de plutôt bien la vivre. Est-ce que tu voulais allaiter ensuite ou pas?
Oui,
Et tu as réussi, tu as eu de... Enfin, il n'y a pas eu de problème particulier.
non, 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 aucun. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin que toutes les personnes viennent autour pour nous coller le bébé bien comme il faut, etc. Et ça, à l'époque, je ne le savais pas. Et quand j'y repense, je trouve ça extrêmement violent, en fait, la façon dont le bébé est prise pour forcer à. Et puis, il faut le réveiller, et puis, il faut. Voilà, c'était des choses que je ne savais pas à l'époque et que je sais maintenant être complètement inutile et même délétère, je dirais.
Ouais.
Mais voilà, l'allaitement impeccable. J'ai pu allaiter jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois, jusqu'à la reprise du travail. Où là, déjà, je ne savais pas que enfin, dans le métier dans lequel j'étais, ça aurait juste été impossible. Je suis même pas sûre que ce soit autorisé en fait de faire une pause. Une pause qui râlait.
Qu'est-ce que tu faisais?
J'étais dans la police nationale avant.
Ah, ok.
Donc voilà, ça aurait été juste ingérable, je pense, clairement.
D'accord.
Ouais.
Donc, tu sors de là pas forcément traumatisé et vous vous dites rapidement ou pas d'ailleurs que vous allez faire un deuxième enfant. Comment ça se passe? Comment t'envisages ça après? Et l'accouchement suivant du coup?
Et ben en fait on va dire ouais, un an, même pas un an après qu'il soit né, en fait, on s'est dit, bah tiens, oui, si on va à un deuxième, il faudrait peut-être qu'on s'y mette maintenant, vu le temps qu'il a fallu pour que le premier se mette en place. Et ben, mois après, j'étais enceinte.
Ah ouais.
Donc on a
Efficacité.
eu deux vraiment rapprochés, deux, ouais, ils ont même pas 21 mois de différence. Et là, dès le début, je ne sais pas expliquer pourquoi, j'ai toujours dit que je savais que ça finirait en césarienne. Sans avoir encore vu de gynéco, etc. Voilà, pour moi, c'était sûr. Et en fait, vers la fin, j'ai dit au gynéco, mais il n'y a même pas besoin de faire une échographie, je sais exactement dans quelle position elle est, et elle est dans la même position que son frère. Donc, vraiment en siège, avec le dos à droite, le regard à gauche. Elle n'avait juste pas la tête en arrière, mais elle était exactement dans la même position. Donc, il a dit, ben là, on n'essaie même pas une voie basse, hein, un siège sur une césarienne précédente, on n'essaie même pas. Donc, césarienne programmée, bien sûr. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a possibilité de vérifier s'il n'y a pas une malformation utérine qui explique pourquoi ils sont exactement dans la même position tous les deux. Donc, ben, même chose, hein, césarienne à 38 semaines, hein, pour les deux.
Ah ouais, c'est
Et
tôt en plus, ouais.
ouais. Et puis, elle devait naître un lundi, et alors. Les histoires de rhésus sanguin ou je sais pas quoi. Je sais même pas pourquoi ça leur a posé problème puisque bah, mon partenaire et moi on est A positif tous les deux, donc je sais pas pourquoi il y a eu un bug. Donc bah, ils m'ont repoussé la césarienne. J'étais déjà perfusée, j'étais déjà à jeun depuis la veille. Ils ont repoussé la césarienne au lendemain. Voilà, donc ça c'est chouette quand tout le monde dit alors ça y est, non pas encore, on verra demain. Voilà, donc finalement ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Ils ont dit bah tant pis, on se débrouillera avec. Je suppose avec du sang universel, je ne sais pas. Mais voilà, donc ben, au niveau du déroulé, le papa n'était pas autorisé à être là. Et puis, à chaque fois, c'était vraiment les 2 heures en salle de réveil, seule. Donc, il faut te dire, ben non, 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 je ne peux pas voir mon bébé avant. Voilà. On va dire, ouais, au niveau des émotions, ça a été essentiellement bah, de découvrir mon partenaire devenir papa, en fait. Ça a été vraiment très, très. Et puis, pareil, l'allaitement, j'ai pu l'allaiter à peu près 4 mois et demi, 5 mois, et même problème, hein, la question du
Avec le
travail.
travail, ouais.
J'avais des horaires complètement pourris. Enfin, on habitait en région parisienne, donc je partais le matin, tout le monde dormait, je rentrais le soir, tout le monde dormait, et bah,
Oh.
c'était quasi, ouais, quasi ingérable. Enfin, sinon, c'était ingérable, en fait.
Ouais.
Donc voilà.
Et donc vous avez fait des recherches ou des examens par rapport à ton utérus? On n'a rien trouvé.
Il y a eu une révision utérine qui était faite directement pendant la deuxième césarienne et rien, rien du tout. Aucune malformation, aucun, pas rien, non, rien qui puisse expliquer cette position-là.
OK.
Donc non, j'avais commencé à me poser des questions dans ma famille. Est-ce que y a, par hasard, il n'y a pas eu parce que ma mère a un utérus en forme de cœur. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des antécédents avec du distilbène? Parce que voilà, le distilbène, ça quand même pose des soucis plusieurs générations après. Et du coup, bah, non, voilà, aucune explication. Et puis, bah, pour ma troisième, je suis tombée enceinte très rapidement aussi. Pour ma troisième, donc, elle est née 4 ans après ma deuxième. Et donc bah, là, j'avais changé de région, donc je n'étais plus avec la même maternité. Et quand je suis donc allée voir la gynéco, elle m'a dit, bon, bah, de césarienne, vous vous en doutez, hein, ce sera donc une troisième césarienne. À l'époque, bah, dans ma tête, c'était, bah, oui, sûr, évidemment. Même si, je sais pas, comme si inconsciemment, il y avait une sorte de déception qui était quand elle m'a dit, bon, ce sera une troisième césarienne. Et puis, bon, quand elle a fait l'échographie, elle a dit, bon, bah, en plus, elle est en siège. Voilà. Bon, d'accord. Exactement la même position que les deux précédents d'ailleurs. Et elle, son histoire est un peu différente dans le sens où elle a décidé d'arriver 2 jours avant la date de la césarienne programmée, à 38 semaines toujours. Hein.
Ah, chaton, bien joué. Elle a essayé. Non, je passerai en force.
C'est ça. Alors, en fait, 2 jours avant, bon, mon conjoint était en stage en région parisienne et c'était le week-end où il était de permanence.
Oh la vache.
justement parce qu'il avait pris des jours pour pouvoir être présent pour la césarienne. Et donc, il y avait ma belle-mère qui était là. Et puis, je crois qu'on est le dimanche soir à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte que ben, je perds les os. Mais je suis d'une zénitude comme jamais. Et bon, évidemment, on est le soir, hein, comme d'habitude. On est le soir, je ne sais plus, il devait être 11h30 ou ouais, 11h30 du soir. Et puis, bon, je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que j'appelle la maternité pour savoir, est-ce que, enfin, je sais que j'ai un peu de temps, mais bon, est-ce que, il y a 45 minutes, est-ce qu'il faut que je me dépêche? Donc, quand j'appelle, elle me dit, ce serait bien que vous dépêchiez quand même de venir. Donc, j'ai réveillé ma belle-mère, on a réveillé les enfants, qui ont été très cool, on a trouvé des personnes qui pouvaient, enfin, de la famille qui pouvait garder les deux grands. Et puis, donc, c'est ma belle-mère qui m'a emmenée à la maternité. Et donc, bon, bah, là-bas, j'étais ouverte à 1 apparemment. Et puis, de toute façon, avant même de m'avoir ausculté, la sage-femme a vu ma tête et elle a dit ouais, vu votre tête, vous n'êtes pas en travail.
Ouais.
Alors que je pense que si, c'est juste que ça se gérait très facilement, en fait.
T'avais des contractions, tu les sentais quand même?
Oui, je les sentais.
Ah oui.
C'était désagréable, mais ce n'était pas non plus. Voilà. Et donc, bon, bah, du coup, ça nous laisse le temps d'attendre bah, l'arrivée de votre gynéco demain matin pour faire la césarienne demain matin.
Ah oui, je croyais
Donc,
que t'allais me dire, ça nous laisse le temps d'attendre le papa, mais non, on est là pour charcuter.
oui, puis non, bah, le papa, il devait arriver que le mercredi.
Ah ouais.
Donc là, non, ils n'auraient pas attendu 2 jours, ça c'est sûr. Et du coup, me voilà en chambre dans le service d'urgence de la maternité, en fait. Et là, en fait, plus personne ne vient me voir de la nuit, mais du tout. Et bah, le travail, il continue, lui, hein.
C'est bien
Quand j'y
ça.
réfléchis, je me dis, j'étais toute seule dans un lit, j'avais mal. Forcément, et je ne savais pas comment gérer les choses parce que et on m'a dit d'attendre sagement le matin, et puis voilà. Mais personne n'est venu vérifier où en était du coup le travail avant de procéder à la césarienne. Donc, eh bien, arrivé à l'heure de la césarienne, hein, on me fait passer priorité. Et bon, là, le chirurgien aussi. Non, l'anesthésiste doit aussi prendre 3 fois, je crois, pour faire l'arachis, enfin, du bonheur. Et puis, bon, bah, une césarienne classique, hein, comme d'habitude. Seul truc, c'est qu'évidemment, ma petite, il n'y avait personne pour l'accueillir à la sortie du bloc. Donc, elle a été en néonate. Et dans les débuts, vraiment dans les tout premiers mois, c'était un bébé super calme. Et je pense vraiment qu'ils ont dû l'oublier parce que, après, quand ils m'ont remonté en chambre, ils m'ont dit, oh, vous pouvez avoir la télé si vous voulez. J'ai dit, mais non, j'avais dit que j'en voulais pas un, mais aussi vous. Non, mais je m'en fiche, là, tout ce que je veux, c'est récupérer ma fille. Et en fait, ben, il y a eu les 2 heures de salle de réveil, et puis ben, ils me l'ont ramenée 2 heures encore plus tard. Donc elle est restée 4 heures toute seule.
Un bébé.
Voilà. Donc c'était assez particulier quand même. Mais à la sortie du bloc, une phrase percutante que m'a dit la gynéco qui est restée. Si, franchement, si les filles, si un jour une gynéco vous dit quelque chose, mais gardez ça en tête. Elle m'a dit, c'était comme une première césarienne, vous pouvez avoir un quatrième. Donc pour moi, c'était comme une première césarienne, ça veut dire que ma cicatrice était juste parfaite, impeccable, et que c'est comme si on venait de me faire juste une première césarienne. Donc
Ok.
en gros, mon utérus, il était au top. Donc c'est vraiment une phrase que j'ai gardée en tête quand j'étais enceinte de mon quatrième. Justement, non, j'avais pas du tout envie de repasser sur le billard.
Donc
Donc
oui, co comment t'as fait ton cheminement? Parce que donc, t'as eu tes trois enfants par césarienne, tu tombes enceinte d'un quatrième et tu te dis quoi là? Tu te dis en fait non, on arrête. C'est quoi ton cheminement? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
alors, bah, au début, pas grand-chose. Au début, grossesse, bah, ce sera une quatrième césarienne, voilà. Et inconsciemment, inconsciemment, je suis sûre qu'il y avait déjà des choses qui se passaient. Et puis, en fait, juste avant le confinement, il y a une dernière tente rouge à laquelle je participe, et la facilitatrice, donc qui était doula aussi, elle a dû lire dans mes pensées, je sais pas. Elle avait apporté le livre de Michel Audan, Césarienne, questions, effets, enjeux. Et elle me l'a prêté. Et là, en fait, ça a juste vraiment confirmé ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais que j'avais pas encore vraiment conscientisé. Alors déjà, je suis un bébé né par césarienne, donc ce livre m'a quand même pas mal bouleversée aussi sur beaucoup de choses, sur les effets de la césarienne sur les enfants. Et puis là, oui, Ça m'a débloqué un truc et à l'intérieur, c'était juste viscéral. C'était c'est non. C'est non. Je ne repasserai plus sur le billard. Non, non, non. Je veux au moins essayer autre chose. Je sais pas, je suis persuadée que ça doit être possible. Donc voilà. Et ça a été le début de recherche, le début de lecture. Alors, je n'ai pas forcément lu des dizaines et des dizaines de bouquins. Par contre, les livres que j'avais, je les ai lus au moins 3-4 fois. Donc là, j'étais enceinte de 5 mois.
Ok.
La révélation est vraiment venue, enfin. J'ai lu donc le livre de Michel Audan. Après, j'ai lu Une autre césarienne ou un AVAC d'Hélène Vadeboncœur, que j'ai bien aimé aussi. Après, j'ai lu Le guide de la naissance naturelle d'Ina Megaskine. Et puis, je suis arrivée sur Laura Chanelet Kaplan, Accoucher par soi-même. Et dans ma tête, j'étais persuadée d'avoir commencé par le livre le plus médical qui soit, enfin, par rapport à, et d'être allé crescendo ou décrescendo, ça dépend dans quel sens on le voit. Mais en fait, après avoir fait deux Paramanadula avec Michel Audan, je me rends compte que pas du tout, en fait. Michel Audan, c'est peut-être aussi un des chirurgiens les moins médicaux qui soient au monde, en
Oui,
fait.
c'est
Hein.
clair. Oui, c'est clair.
Voilà. Et donc, ces livres, voilà, je les ai lus, relus, re-re-relus. Et puis, je ne connaissais même pas le terme AVAC, donc accouchement vaginal après césarienne. J'ai commencé à aller sur Facebook et puis à chercher. Et donc, je suis tombée voilà, enfin, sur des groupes, mais je ne trouvais pas de témoignages de ma situation. Et pourquoi je ne suis pas allée chercher côté anglophone? Je n'en sais rien parce que l'anglais et moi, ça va, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai commencé à le faire quand il est né. Ça m'aurait vraiment facilité la tâche.
Ouais, c'est clair. Il y a
Mais
tellement
bon.
de contenu,
Mais
tellement de
tellement
ressources.
de témoignages aussi. Et du coup, la seule que j'avais trouvée sur un groupe qui avait donné naissance en France après 3 césariennes, elle l'avait fait, mais elle avait vraiment énormément fait de concessions, c'est-à-dire qu'elle avait fait des kilomètres et des kilomètres pour trouver une équipe conciliante qui accepte son projet. Et il fallait qu'elle accepte leurs conditions aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui, moi, me. Voilà. Dans ma tête, c'était si je dois aller en maternité, je sais que ça finira en césarienne. C'était juste une évidence, en fait. Donc, déjà, pour changer au niveau du suivi, eh bien, j'ai choisi déjà de ne pas m'inscrire en maternité tout de suite. Je suis allée voir une sage-femme libérale. Et pendant qu'on discutait, je lui disais, voilà, c'est vrai que dans l'idéal, j'adorerais faire comme si, enfin, voilà, donner une naissance par voix basse, même si je me doutais qu'elle dirait pas, mais bien sûr. Et donc, elle me dit, oh, mais c'est drôle parce que, donc à la clinique où elle avait travaillé à un moment, elle était là en plateau technique, je crois, et ben, il y a une femme comme ça qui s'est présentée à la dernière minute après 2 césariennes, et bon, ben, ils n'ont pas eu le choix, ils ont serré les fesses et elle a donné naissance par voix basse après 2 césariennes. Puis, elle voit ma tête, elle me dit, j'aurais pas dû dire ça, je crois. Ah là, dans ma tête, du coup, c'était comme si c'était, ah mais du coup, on peut faire comme ça. Ah ouais,
Vous
ah ouais.
pouvez ne pas m'obliger, quoi.
Voilà.
Enfin, ouais.
Et donc, dans ma tête, au fur et à mesure, il était évident pour moi que je ne pouvais pas aller en maternité. Parce que vraiment, pour moi, c'était synonyme de il n'y aura pas de doute, ce sera une césarienne. Même si je suis en début de travail, ça finira forcément en césarienne. Et puis, ben, voilà, le cheminement vers une naissance autonome s'est fait. Donc, j'ai commencé à aller sur des groupes aussi. Je trouvais forcément pas de témoignages, on va dire, avec le nombre de césariennes que j'avais moi. Il y a un témoignage d'une femme québécoise qui avait donné naissance librement après 2 césariennes et qui avait des risques, on va dire, supérieurs aux miens. Elle avait déjà eu des syndromes de HELLP, elle avait déjà eu de la prééclampsie, des choses comme ça que moi je n'avais pas. Donc dans ma tête, je me disais, bah, si elle c'est bon, il n'y a pas de raison que pour moi ça ne marche pas. Donc voilà, j'allais là-dessus et je ne sais pas, peut-être par acquis de conscience, je me suis dit, je vais quand même essayer de contacter une sage-femme qui fait des AAD dans ma région. On verra. Donc je la contacte et puis elle me dit, alors voilà, officiellement, vous en doutez, je ne peux pas. Officieusement, bah, j'aimerais bien. Pourquoi pas? Après, peut-être que ce serait bien déjà qu'on se rencontre. Donc, je l'ai rencontrée et puis là, on a beaucoup discuté et elle me disait, voilà, moi, officieusement, je veux bien. Ses conditions à elle, c'était parce que là où on était au milieu, on va dire, de trois maternités, mais on avait 35 à 45 minutes pour aller à l'une ou à l'autre. Et donc, ses conditions, c'était, bon, déjà que tout soit au vert, qu'il n'y ait aucun diabète gesta ou voilà, pas de siège non plus. Et du coup, il fallait que je sois à moins de 10 minutes d'une maternité. Donc, elle me disait, il faudrait trouver une amie ou un gîte ou quelque chose qui soit pas trop loin. Voilà. Et ça m'a, on va dire, pendant une semaine après ce rendez-vous, j'étais vraiment retournée. Ça m'a vraiment bouleversée. Comme si j'avais l'impression que, de toute façon, ça marchera pas. Puis, je me suis dit, non, si c'est pas chez moi, je sais que ça finira en césarienne. Parce que je serai pas tranquille, je serai pas. Voilà. Donc, ça ne me venait même pas à l'esprit d'imaginer demander à des amis ou. Non, c'était même pas envisageable. Donc, je m'étais dit, bon, bah, voilà. Ce sera donc sans sage-femme.
Ouais. C'est quand même
Et.
bon à savoir enfin voilà, qu'il existe des sages-femmes qui peuvent être OK officieusement d'accompagner un projet comme celui-ci.
Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est pas plus mal. C'est une sage-femme que j'apprécie beaucoup, mais j'ai peur peut-être qu'elle aurait été trop interventionniste. Donc finalement, voilà. Parce que forcément, il y a toujours la peur du risque qui est là. C'est l'inconnu aussi, entre guillemets,
Bien
pour elle,
sûr.
finalement. Donc,
Bah, après, si elle est là officieusement et qu'elle a aucune responsabilité, parce que si elle est là officieusement, c'est bien qu'il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. C'est un peu
Franchement,
ça,
je ne sais
non?
pas trop comment ça aurait pu se faire parce que, je pense, comme de nombreuses sages-femmes à AD, elle a déjà eu des ennuis avec l'ordre des sages-femmes pour des raisons qui n'étaient pas du tout valables. Et voilà, je sentais que ça risquait aussi peut-être de lui poser d'autres soucis, en fait. Donc, je pense que j'aurais peut-être fini par lui dire non, non, tant pis. Donc bon,
D'accord.
officiellement, je lui ai dit que j'acceptais la césarienne le plus tard possible et voilà. Donc ce petit bonhomme, eh ben c'est le seul qui a décidé de ne pas être en siège dès le début. Et en fait, moi j'explique ça tout simplement par le fait d'avoir vraiment parlé avec ma mère de ses expériences de grossesse et d'accouchement.
OK.
Et ça a dû débloquer quelque chose. Je reste persuadée que j'ai dû bloquer inconsciemment mon corps précédemment pour ne pas vivre ce qu'avait vécu ma mère. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, de vivre des césariennes programmées plutôt que de vivre des césariennes comme elle a eu. Elle a eu une césarienne, du coup, en urgence. Pour les trois grossesses, elle a été cerclée très tôt, hospitalisée aussi, enfin, alitée. Enfin, je veux dire, ça devait être franchement l'horreur. Et quand ils ont décerclé pour moi, elle a perdu les os entièrement. Donc mon corps était imprimé sur son corps, en fait, sur son ventre. Donc ça devait être assez chelou. Donc c'est trop tard pour que je sache vraiment, avec le dossier médical, ce qui s'est passé. Mais voilà. Et donc après, elle a donné naissance à ma sœur et à mon frère par voie basse, mais avec à chaque fois que des accouchements atroces. Vraiment. Et voilà, mon petit frère qui est né grand préma, malgré le cerclage, enfin, jaunisse, plus. Trauma parce que ben pas dans le même hôpital. Enfin, je pense que clairement j'avais dû faire quelque chose dans l'intérieur de mon corps pour dire stop. Non 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 non, on vivra pas ça. C'est hors de question. Et le fait d'avoir vraiment, je sais pas, pris le temps d'en parler plus en détail, peut-être que à l'intérieur, je sais pas, mon corps s'est dit mais attends, déjà les grossesses tu les as jamais vécues comme elles. J'ai toujours eu des grossesses qui sont très bien déroulées et j'ai été active jusqu'à la fin. Enfin. Voilà. Et je sais pas. Du coup, bah, c'était le premier à être en céphalique et il est resté jusqu'à la fin comme ça.
Trop bien. Donc, tu rencontres cette sage-femme pendant ta grossesse et tu te rends compte que, ben, en fait, non, tu vas faire ça sans sage-femme. Ton compagnon, il pense quoi de tout ça?
Eh ben en fait, il a vu que vraiment je lisais beaucoup, que bah, je m'informais que c'était pas une lubie en fait, c'était pas un caprice. Au début, on va pas dire qu'il était particulièrement rassuré, Mais il m'a fait confiance.
Ok.
Il m'a fait confiance. Après, il n'a pas cherché à en savoir davantage ou à s'investir vraiment aussi dans le processus en lui-même. Et ça a toujours été comme ça dans notre couple. J'ai jamais cherché à forcer quoi que ce soit pour toutes les grandes décisions, en fait. Les choses se font comme elles se font. C'est l'histoire de naissance. Mais voilà. Donc, je crois que je devais être au 7e mois à peu près où je me dis, bon, bah, je vais peut-être quand même m'inscrire dans une maternité au cas où. Une maternité où je n'étais donc jamais allée. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, je m'étais mis dans la tête, je préfère aller dans une clinique plutôt qu'un hôpital, dans l'idée que peut-être en étant des clients plus que des patients. Voilà. Donc, j'étais restée bloquée là-dessus. Donc, je suis toujours allée en clinique. Donc là, j'étais allée vers une clinique, j'ai rencontré une gynéco. On ne peut pas dire qu'en deux rendez-vous, elle me connaisse. Elle avait juste des données, voilà, des analyses, c'est tout. Et quand je lui ai parlé de l'éventualité d'essayer une voie basse, elle m'a dit, eh, on serait dans un CHU, j'aurais pas les collègues que j'ai, et j'aimerais bien vous essayer avec vous, quoi. Et là,
Ah
tout ce que je
ouais.
peux vous proposer, c'est une césarienne le plus tard possible. Alors bon. Maintenant, avec mon vécu de doula, j'ai envie de dire, c'était pas super cadeau quand même, hein, mais 39 plus 6. Wow. Et je veux bien, parce que c'est pas moi qui serai présente pour faire la césarienne. Elle était en vacances à ce moment-là, donc normalement, ça devait être un de ses collègues. Mais moi, je vais négocier pour que vous n'arriviez que le matin et pas la veille au soir. Waouh, double cadeau.
Gros cadeau, ouais, c'est clair.
Voilà. Et puis, mais dans ma tête, non, c'était toujours, non, c'est pas possible. Enfin, en plus, on était toujours, période Covid et enfin.
Ouais, les masques.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Et tout, pas le coparent, enfin ouais.
Ouais, non, c'était voilà, c'était quand même une ambiance assez particulière. Et puis, ouais, cette maternité, je sais pas, je me sentais pas forcément super à l'aise là-bas. Et puis, 5 jours avant la césarienne, ils m'ont demandé de venir faire un monito. J'ai jamais fait de monito à ce stade-là, je savais pas pourquoi. Bon, on y est allé avec mon conjoint. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais fissuré la poche des os déjà depuis déjà quelques jours. Et donc, la doula qui m'avait prêté le livre au début, donc de Michel Audan, m'avait envoyé un article d'une sage-femme australienne qui parle justement de la rupture de la poche des os et des fissures. Et alors, à ce moment-là, je vais être honnête, à ce moment-là, je ne l'avais pas lu, mais juste le fait de l'avoir dans mes favoris, de savoir que c'était possible de ne pas y aller, parce qu'en fait, elle m'avait résumé qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'urgence non plus. Bref, juste le voilà, je me suis dit non, je sens que c'est OK de rester chez moi, parce que finalement, mon corps connaît les germes de ma maison, et pas ceux de l'hôpital. Et donc, pendant ce monito, évidemment, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que. Voilà, il n'y a pas eu de toucher vaginal, hein, d'ailleurs. Rien. Mais donc, non, je n'ai pas dit.
Et
J'avoue
t'avais
quand
fissuré.
même que. Ouais, non, j'avoue quand même que. Heureusement qu'il n'y a pas eu de toucher vaginal, je crois que ça aurait été beaucoup moins rigolo. Mais bon. Et du coup, on ne sait pas, on ne se sentait vraiment pas à l'aise. Le cadre en lui-même, mon conjoint m'a dit, ouais, si jamais il y a un plan B. S'il faut partir à maternité, je crois que ce sera le CHU. Hein. Et puis voilà, on s'était dit ça. Donc, bah voilà, on arrive la veille de la césarienne et il se passe toujours rien. Et clairement, ce jour-là, je me suis effondrée. Je me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en train d'imaginer toutes les excuses possibles. Je sais pas, une panne de voiture. Je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire ou dire pour ne pas y aller. Et puis j'avais envoyé donc un message à cette copine doula pour lui dire un petit peu voilà où j'en étais dans mon désarroi, on va dire. Et à ce moment-là, c'était mon homme qui avait le téléphone. Il était au boulot, donc il est rentré. Il était minuit et demi, et il m'a dit, tiens, t'as un message. Je crois que c'est important. Et là, je m'étais presque dit, parce que c'était à 7 h le matin qu'il fallait que j'y sois, hein, là-bas. Je m'étais presque résignée à y aller. Et là, je lis les mots et c'est ton corps, c'est ton bébé et c'est ton choix. Personne ne peut t'obliger à y aller. Personne ne peut t'obliger non plus à les prévenir, en fait.
Bien sûr. Ils vont pas venir te chercher chez toi.
Non. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si je m'étais fracturée en deux, avec d'un côté la petite fille sage. Et de l'autre côté, la femme sauvage que je commençais à découvrir. Donc, la petite fille sage qui, jamais au grand jamais, n'aurait osé décliner un rendez-vous et encore moins s'en prévenir. Et la femme sauvage qui dit, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu veux pas de ça? Donc, s'en est suivi une discussion avec mon partenaire. Je sais pas pendant combien de temps, mais on a discuté un moment. Il m'a dit, mais c'est pas rien, quoi. On va t'ouvrir le ventre. Donc, clairement, si le seul souci, c'est nos familles, tu t'en inquiètes pas. Moi, je gère. Je gère, je les appelle, c'est pas un problème. Toi, tu gères la maternité et puis c'est tout. Et là, waouh, un gros poids en fait. Donc lui, il allait se coucher et moi, voilà, je pouvais pas. C'était juste pas possible, je pouvais pas aller me coucher comme ça. Et ça faisait un moment que j'avais échangé avec une doula québécoise qui m'avait proposé plutôt dans la grossesse, parce que mon histoire l'avait touchée, de me faire une séance d'hypnose offerte. Et on n'avait jamais réussi à se capter, mais jamais. Et là, la magie. Il est 1 h 30 du matin chez moi. Je sais plus quelle heure il était chez elle. Et donc, on réussit à se capter. De 1 h 30 du matin jusqu'à 3 h du matin, on est ensemble. Elle me fait une séance d'hypnose. On discute. Enfin, voilà, c'est génial. C'est magique. Donc, clairement, en allant me coucher à 4 h du matin, c'est juste physiquement impossible d'être présente à 7 h du matin pour la césarienne.
C'est clair.
Je me suis réveillée. Il était 11 h du matin. Donc
Désolée.
évidemment, j'ai déjà plusieurs messages.
T'as eu des messages?
Oui, j'avais déjà des messages parce que je suppose que ils s'inquiétaient. Enfin, je les ai écoutés quand même, mais j'ai fait vraiment ce que la petite fille sage à l'intérieur de moi n'aurait jamais fait. Je ne les ai pas rappelés. En fait, je me sentais extrêmement zen et alignée avec mon choix, mais je me sentais trop vulnérable pour entendre leur peur au téléphone et avoir à répondre à ça. Donc, pour moi, c'était juste pas possible. Dans l'état dans lequel j'étais, c'était pas le moment. Oui, j'ai chamboulé leur emploi du temps. Oui, c'est pas réglo, etc. On est d'accord. Mais clairement, là, j'étais à 10 000 de tout ça. Mais à 10 000 lieues de tout ça. C'était vraiment pas ma priorité du tout. Donc, oui, bah oui, comme message, il y avait évidemment. Alors, au début, c'était juste pour savoir si j'allais bien. Et puis après, c'était vous mettez votre bébé en danger, etc. Bon, bah, classique, hein, c'est logique. Et du coup, j'ai envoyé un pauvre mail. Je ne sais même pas s'ils l'ont reçu, en fait. C'est un mail que j'ai envoyé sur l'email du site, de leur site, en fait,
Ouais.
en disant un truc du style, je ne sais même plus, un truc qui avait même, sans queue ni tête, en disant que j'étais à l'hôpital, mais que je ne pouvais pas les appeler. Voilà. Bon, bref. En tout cas, je n'ai
Trop
jamais eu
bien.
de nouvelles. Donc, juste pour rassurer, j'ai renvoyé un mail parce que clairement, je ne me sentais quand même pas non plus de les appeler. Donc j'ai renvoyé un mail plus tard hein, quand je suis rentrée chez moi en leur expliquant toute l'histoire. J'ai jamais eu de nouvelles.
OK.
Voilà, c'est de bonne guerre. Mais voilà. Et puis là en fait on était juste tous les deux en fait mon partenaire et moi. Les enfants étaient en vacances chez leurs grands-parents. Et puis je commençais à faire des crêpes. Et voilà, j'ai une sensation de resserrement, bah comme déjà plusieurs semaines, voilà, des contractions, mais qui ne sont pas douloureuses. C'est vraiment cette sensation que j'ai déjà depuis un moment. Mais je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, je vais prendre l'application sur le téléphone et je vais regarder. J'ai vite laissé tomber, j'étais jamais à côté du téléphone quand il fallait. Enfin, ça m'a saoulé. Puis ça donnait des trucs toutes les 15 minutes. Enfin, c'était, il n'y avait rien de cohérent, c'était bizarre. Donc j'ai laissé tomber l'application et je pense que c'est une très très bonne chose. Et puis, ouais, vers 22h, on décide d'aller se coucher et clairement, non, je sens que je peux pas, je tiens pas en place. Donc, pourquoi est-ce que je décide de tout installer dans le salon? J'en sais rien, mais j'installe tout dans le salon. Ma couverture par terre, mes bougies, de l'encens, ma playlist, mon ballon, je suis bien, tranquille, dans la pénombre. Et puis donc, bah, je sens qu'effectivement, ça s'intensifie en fait. Mais je me pose pas la question à savoir si vraiment je suis en travail ou pas. En fait, c'est comme si c'était bah, juste évident finalement. Donc, à un moment, je me dis, j'aimerais bien aller dans la piscine. Donc, je demande à mon homme s'il peut la gonfler. Bon, alors je leur dis juste, on est né. Il paraît qu'on vient de Vénus et que de Mars. Bah, je confirme. Il faut rien, bien tout préciser. J'ai oublié de préciser qu'il fallait la remplir la piscine aussi. Voilà.
En
Donc,
fait, je
quand
suis en
elle
train
était
d'accoucher.
gonflée. Oui. Mais du coup, quand je me suis dit là, c'est bon, je veux y aller, elle est vide. Voilà. Donc, je le rappelle. Alors, je ne sais pas du tout si j'étais agréable ou pas. Hein, je sais pas du tout. Mais donc, voilà, il commence à la remplir. Et en fait, j'avais pas du tout de notion du temps, mais pas du tout. Et l'impression que j'avais vraiment au niveau des contractions, c'était complètement anarchique. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'elles se succédaient les unes aux autres sans s'arrêter et qu'après, j'avais vraiment une grande pause. Mais je ne saurais pas dire si vraiment dans le temps, c'était vraiment ça. Mais c'était vraiment une impression de... voilà. Et puis après, enfin, ouais, c'était assez, assez particulier. Et puis, je faisais des allers-retours aux toilettes. Et puis à un moment, je vois quelques gouttes de sang, en fait. Dans le liquide que je continue à perdre, hein, goutte à goutte. Alors maintenant, avec le recul, je sais que c'était juste mon col qui devait travailler super fort. Sauf que, en fait, ça a dit, j'étais en phase de désespérance et je ne le savais pas. Donc, je suis arrivée dans la salle de bain où la piscine était enfin remplie. Je regarde par là parce qu'elle était là, la piscine. Par là. Je dis à mon homme, on part. Bon, voilà. Le truc aussi, c'est que le seul conditionnement que j'avais pas travaillé, c'était la durée du travail. Moi, du coup, j'étais restée bloquée sur le fait que mon corps n'avait jamais connu de travail, donc ça allait durer longtemps. Erreur! C'est erreur. Parce que moi, ça a duré 3 heures et demie au total, en fait. Donc, je m'attendais pas du tout à être déjà en phase de désespérance. Mais vraiment pas du tout. Là, clairement, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de quelqu'un du monde médical, c'était vraiment d'une personne qui détourne mon attention pour aller dans la piscine, juste. Et je sais, enfin, je suis persuadée qu'il serait né une demi-heure après dans la piscine. Pourquoi une demi-heure après, je ne sais pas, mais voilà, pour moi, c'est sûr. Donc voilà, je dis, on y va. Pour le bas de combat, bon, on avait quand même préparé un sac que je ne suis même pas sûre qu'il était vraiment terminé. Bon, bref, au cas où. Et donc, je me rappelle, je crois que oui, si, j'étais entièrement nue, mais il a voulu mettre une robe en pleine contraction. Je lui ai grogné dessus comme jamais, tel une ours. Pour moi, c'est vraiment ça. Je me suis transformée en ours à ce moment-là. Je suis vraiment quelqu'un qui a toujours tendance à avoir du mal à lâcher prise. Et clairement, là, je ne me suis pas posé la question. Voilà, l'animal qui sort. Et maintenant encore, hein, quand on en reparle, il dit oui, non, oui. Ça lui a vraiment fait peur. Il m'avait jamais vu comme ça. Jamais. Donc moi, ça me fait rigoler, mais lui, beaucoup moins. Et puis, du coup, voilà, on arrive dans la voiture. Route de campagne. Hein, on avait, bah, pareil, hein, 35 minutes à peu près pour aller jusqu'à... Ouais, 35 minutes pour aller jusqu'au CHU. Et une dizaine de minutes à peine après être parti, mon corps commence à pousser tout seul. Mais voilà, dans ma tête, hein, je me disais, mais je ne suis pas dilatée assez, c'est pas possible. Pourquoi mon corps pousse tout un... Alors que je n'ai pas du tout vérifié mon col, je n'avais jamais réussi à l'atteindre pendant toute la grossesse, je n'ai jamais cherché non plus avec la fissure que j'avais. Donc je ne savais pas du tout où j'en étais. Et dans ma tête, c'était trop tôt en fait. Donc je pense que j'ai aussi un peu interféré, on va dire, dans le processus. Mais voilà. Et en poussant, bah, mon partenaire ne savait pas du tout quoi faire. Il m'a dit, est-ce que tu veux les pompiers? Alors il paraît que je lui ai répondu. Je ne sais pas quoi. Donc, dans le doute, il a appelé les pompiers. Donc, on était paumés au milieu de nulle part, hein, quand même, dans la cambrousse. Et donc là, ce sont les pompiers volontaires du coin qui sont arrivés avec leur VSAV sans brancard. Alors, eux, ils sont super gentils parce que ce sont les seuls qui ont accepté de me faire boire. On était le 30 juillet 2020, ouais. Il faisait vachement chaud quand même. Alors, même s'il était 3 heures et des brouettes, non, 4 heures et quelques, je crois, il faisait quand même super chaud. Puis voilà, on travaille, on a soif. Oui. Donc, j'ai pu boire un peu. Et puis voilà, mon partenaire leur a dit que j'avais eu 3 césariennes, etc. Et pour eux, ce n'était pas un problème, quoi. Bon, en même temps,
ils s'y connaissent pas
non plus. Et arrivent les pompiers de la grande ville voisine avec un médecin du SAMU. Un jeune médecin du SAMU qui n'a certainement jamais assisté à un accouchement, tout simplement.
Ah oui, non.
Et là, je me rappelle juste avoir essayé de murmurer, me mettez pas dans cette position, donc en étant allongée sur le brancard, mais j'avais même pas la force de parler parce que j'étais vraiment à la fin, tu peux plus parler. Et j'avais cette femme à côté, je sais pas, ça devait être son assistante, j'en sais rien, qui essayait de me mettre un cathéter là, qui me l'a mis avec un strap super serré, je me suis tapé la main comme ça pendant super longtemps. Et puis ce gars là en face de moi qui me dit, mais poussez pas, madame, poussez pas. Mais je peux pas ne pas pousser. Puis je lui dis, mais j'ai soif, je veux boire. Ah non, c'est interdit, vous pouvez plus boire. Et donc, j'étais allongée sur le brancard pendant, ça a duré donc à peu près une demi-heure. Et puis donc, lui, il était en ligne avec le CHU où on pensait aller de toute façon. On finit par arriver là-bas. Et je me doute qu'il va y avoir un comité d'accueil. Et effectivement, oui, je ne sais pas combien, il va y avoir entre 10 à 15 personnes, facile. Et donc, on arrive dans une salle où il y a une personne qui s'énerve sur un de mes bracelets. Je ne sais pas pourquoi, elle veut absolument l'enlever. Bon. Et puis, du coup, pendant qu'il y en a un qui me rase au niveau de la cicatrice, dans l'espoir certainement de faire une césarienne d'urgence, il y en a un autre ou une autre, je ne sais pas, qui vérifie où on est. Hop, stop, laissez tomber le bébé là, avec la poche, il est là, il faut y aller. Donc, on part direction, je suppose, la salle d'accouchement. Et là, en volée de moineau, on se retrouve juste avec mon partenaire, un sage-femme et, je suppose, une auxiliaire. Je ne sais pas quel était son rôle, mais elle était là. Et c'est pareil, encore une fois, j'essaie de dire, pitié, ne me mettez pas dans cette position, je ne veux pas. Sauf que personne ne m'entend, en fait. Et donc, je me retrouve en position gynéco avec des étriers trop hauts et en poussée dirigée. Alors que mon corps poussait très bien tout seul jusqu'à présent. Et du coup, donc cette femme à côté qui me murmure à l'oreille comme si c'était un secret. Madame, c'est comme si vous étiez constipée. Et intérieurement, j'étais morte de rire. Parce que je savais que ça ne voulait rien dire. Que d'une, quand je suis constipée, je ne pousse pas, je ne force pas. C'est pire que tout. Et de deux, ce n'est pas par là qu'il faut pousser. Enfin, c'est pas logique. Et pendant ce temps-là, le sage-femme qui me disait « Madame, il va falloir y aller parce que votre bébé, il n'aime pas là où il est. » Et je savais très bien que ce n'était pas vrai. J'ai eu mon dossier médical et durée de poussée 10 minutes. Donc voilà, c'est juste qu'il flippait, qu'il n'avait qu'une hâte, c'est que le bébé sorte, que vite le placenta sorte et qu'on puisse faire donc, la suite qu'ils avaient déjà programmée en tête. J'en suis sûre. Du coup, j'ai bien senti effectivement le cercle de feu. Je l'ai bien senti, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Vu la position, hein, forcément, c'est quand même compliqué. Et du coup, mon bébé est né. Quand ils m'ont posé, je n'ai pas eu un moment de « waouh, je l'ai fait », etc. C'est comme si je n'étais pas encore redescendue et je savais qu'il restait encore le placenta. Donc, j'étais encore… Donc, on a juste vu, c'est un petit garçon, cool. Mon homme qui me dit, bon, alors du coup, comment on l'appelle? Parce qu'on hésitait encore. Déjà, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, c'était un choix. Et ensuite, on ne savait pas, on avait hésité entre deux prénoms. Et du coup, il me dit, alors, celui-là ou celui-là? Celui-là. OK, d'accord. Et puis, mon bébé venait à peine de naître. Et la sage-femme me dit, allez, madame, poussez, arrêtez de pousser. Ce laps de temps. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, clairement, le temps que ça monte à mon cerveau, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pu. Voilà. Et en fait, il a juste tiré sur le cordon pour sortir le placenta, qui forcément n'était pas encore décroché. Il venait à peine de naître, c'est logique. Donc, est arrivé ce qu'il voulait éviter et j'ai fait une hémorragie. Et là, en fait, quand tu entends le sage-femme qui dit « Ah, on est à 500, on est à 800 ». Bon, bah, madame, on va vous faire une révision utérine sous anesthésie générale. Et là, tu te dis. Bah, c'était sûr, en fait. C'était sûr. Et là, bah, tu te poses, enfin, tu sais pas forcément trop ce qui t'arrive, quoi. Ton bébé est emmené avec ton homme, ils sont sortis, on leur explique rien. Hein. Ils n'ont rien expliqué à mon conjoint. Et du coup, je sais pas exactement avec quoi ils m'ont endormie. Seul truc, c'est que je me suis partie dans un délire kaléidoscopique, je ne savais même pas comment le dire, de déconstruction pour arriver jusqu'au néant. Enfin, c'est bizarre. Bref, et du coup, bah, voilà, je me suis réveillée avec, dans cette pièce avec bah, mon conjoint et mon bébé qui étaient là. Et voilà. Et en fait, donc, bah, avec la poussée dirigée, j'ai eu une déchirure. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de suturer, mais bon, ils ont profité. Ils ont profité de l'anesthésie, du coup, pour me suturer. Je saurai plus tard qu'en fait, clairement, ils ont fait ça à l'arrache. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Parce que bon, ils avaient quand même le temps de le faire. Et je me suis retrouvée du coup avec en fait un morceau d'hymen qui dépasse. C'est-à-dire qu'au lieu de coudre bord à bord, j'ai un morceau d'hymen en fait qui dépasse. Je trouvais, j'avais une sensation étrange. Donc, quand je suis allée voir la sage-femme, le rendez-vous des 8 semaines, je crois, elle m'a dit, effectivement, côté couture, c'est pas 10 sur 10. J'ai envie de dire, c'est gentil de dire ça comme ça, mais bon. Et je me rappelle quand j'avais pris une douche, à un moment, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai l'impression enfin, de ne plus trouver une de mes petites lèvres, en fait.
Oh là là.
Et en fait, c'est normal, elle est prise dans la couture. Voilà.
Oh.
Alors, on va dire que. L'avantage, c'est que ça n'est pas une gêne ni une douleur au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le choix de faire une reconstruction. Et ça me permet aussi de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Parce que voilà, cette naissance-là m'a montré toute ma puissance et m'a montré aussi qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire et qui ne devraient pas exister, en fait, dans le milieu de la naissance, tout simplement, et dans la naissance en elle-même. Donc, en fait, pour revenir. Au moment de l'accouchement, c'est pas du Santocinon que j'ai eu, c'est du Naladol, qui est donc apparemment un produit plus fort, qui coûte vachement plus cher aussi, mais plus fort. Et pour l'anecdote, je n'ai absolument senti aucun de ces effets. C'est-à-dire que, selon toute logique, ça aurait dû permettre à mon utérus de contracter, justement, pour qu'il se remette en place après. Mais tant que j'étais là-dessous, avec ça, je ne sentais rien du tout. À partir du moment où le petit bonhomme a été au sein, les tranchées sont arrivées. Ça, il n'y a pas eu de doute. Donc vraiment, pour moi, je comprends encore toujours pas vraiment l'utilité de ce produit, en fait, parce que clairement, il n'y avait pas nécessité. Il n'y avait vraiment pas nécessité.
Non, mais ce que tu décris, enfin, ils ont juste fait ce qu'on leur apprend à faire. Il n'y a aucun discernement, il n'y a aucun bon sens, il n'y a aucune volonté de voir et agir en conséquence. C'est simplement qu'est-ce qu'on m'a appris? Alors, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Enfin, ce sont des machines, quoi. C'est des robots un peu bêtes à un moment donné. Et j'essaye de toujours garder un discours où je protège un peu les soignants et quoi qu'ils en pensent, mais où je dis, voilà, c'est le système qui est problématique et les soignants, ils sont pris dedans et tout ce que tu veux. Mais là, ça m'énerve tellement ce que tu me racontes que vraiment, ce sont juste des petits robots stupides, en fait, à la fin. Enfin, à un moment donné, à pas se questionner de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on crée. Enfin, moi, ça me... Bon, bref, continue.
En fait, ce que je trouve dommage, c'est que clairement, à ce moment-là, quand je suis arrivée, donc oui, effectivement, il ne me connaissait pas. Il n'avait pas mon dossier. Mais finalement, entre une gynéco qui m'a vue 2 fois et qui avait les mêmes données que ce que j'avais dans mon sac, ça changeait rien. Rien du tout. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand une femme arrive comme ça, peut-être que l'idéal, c'est d'abord dézoomer, en fait, sur la situation et de regarder, OK, bébé va bien, maman va bien, hop, on fait un pas en arrière, on
Mais c'est
attend et
ça.
on observe. Si on a
Mais bien
besoin
sûr.
d'intervenir, le bloc est à côté, quoi.
Mais bien
Donc,
sûr.
il
Et
n'y
puis
a pas besoin.
tirer sur un placenta, enfin je sais pas. Je pense que n'importe quelle personne peut se dire, mais ça va pas faire saigner de tirer sur un placenta, je sais pas. Enfin je sais pas quoi, merde, en fait.
Mais j'ai envie de dire qu'à part les personnes qui s'y connaissent vraiment un petit peu quand même, la plupart des gens déjà oublient qu'il y a un placenta qui doit sortir.
Alors oui, bien sûr.
Et alors, même ceux qui savent qu'il y a un placenta ne savent pas forcément vraiment comment ça se passe, finalement. Donc,
Je suis persuadée que les gens pourraient se dire facilement, peut-être qu'il ne faut pas tirer sur le placenta parce que peut-être que ça peut... Je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut pas tirer, quoi.
Ouais, mais du coup, en fait, ce qui est quand même chouette, et c'est pour ça aussi que je parlais du côté clinique et hôpital, c'est que, à part le sage-femme qui, après, nous a dit, bon, c'était un peu inconscient quand même ce que vous avez fait. Celle-là est quand même par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Voilà, c'est vraiment le seul côté, entre guillemets, négatif qu'on a eu, parce qu'après, pendant tout le reste du 16 jours, je suis tombée que sur des personnes extrêmement ouvertes. Ça a commencé avec un auxiliaire qui... Manoui, s'il te plaît. Avec un auxiliaire, du coup, qui me dit, alors, par rapport au bain, est-ce que vous voulez lui donner maintenant, ou est-ce que vous voulez attendre un peu, ou est-ce que vous voulez attendre d'être chez vous? Mais oui, ça, c'est exactement ça, je vais attendre. C'est parfait, je vais attendre que de renouvellement. Et puis après, j'avais une... Alors, je crois qu'elle était sage-femme, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle s'était vraiment spécialisée en tant que conseillère à l'allaitement. Et donc, elle était venue, elle venenait tous les jours. Et à un moment, elle a dit, quand il y avait mon conjoint qui était là aussi, en fait, je viens juste prendre ma dose de bonheur.
Franchement,
c'était trop chouette. Et même la pédiatre, bon, j'ai eu toutes les élèves sages-femmes, hein, toutes, elles sont toutes passées dans ma chambre pendant les 3 jours. Et donc, même la pédiatre, à la sortie, m'a dit, vous avez eu raison de vous écouter.
Mais non.
Waouh.
Incroyable.
Et puis, elle m'avait dit aussi, d'ailleurs, bon, je ne sais plus comment c'était venu. Je crois que j'avais dû lui poser la question, savoir est-ce que les rendez-vous médicaux tous les mois, c'était obligatoire. Elle m'avait dit non, c'est recommandé. Ah, du coup,
ça change tout.
Intéressé. Voilà.
Mais comme tout, en fait, hein, tout est recommandé, sauf qu'ils ne le présentent pas comme ça.
C'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment... on va dire, outre le passage violence obstétricale, il n'y a pas d'autre terme, hein, même si, non, évidemment, il n'y avait pas de volonté de nuire, il y avait vraiment la peur qui était présente, j'en suis certaine. À part ça, on va dire, pour moi, ça reste vraiment une expérience extrêmement positive. Parce que ça m'a montré, d'une, que j'étais capable, de deux, que je savais lâcher prise, en fin de compte. Et je pense que finalement, mon chemin de vie était aussi d'aller semer une graine en milieu hospitalier.
Ouais.
Pour le coup. Et puis, j'avais donc envoyé un message après à la sage-femme qui faisait les accouchements à domicile pour lui dire donc qu'il était né et par voix basse. Et alors là, elle me dit, oh, mais c'est génial, mais faut pas que tu t'arrêtes là, mais c'est une révolution, mais c'est trop bien, faut que tu continues, faut que tu le dises partout, etc. Wow, c'était magnifique, franchement, c'était génial.
D'où ta vocation maintenant de vouloir accompagner les femmes qui ont cette volonté aussi, de partager ton vécu à toi. Et...
Oui, mais j'ai envie de dire qu'en fait, ça s'est encore plus accentué quand j'ai commencé à chercher du côté anglophone.
Ouais.
Et là, en fait, j'avais demandé Laura Chanelet Kaplan en amie sur Facebook. Et elle m'avait accepté. Du coup, j'étais allée voir un peu sur son profil et elle avait posé une question à sa communauté. Elle demandait s'il y avait donc des femmes qui avaient donné naissance librement après plus de 2 césariennes. Et dans ma tête, je me suis dit, elle n'aura pas de réponse. Il y avait plus d'une quinzaine de femmes qui avaient répondu en dessous. Et là, wow, je me suis dit, mais comment ça se fait? Donc, c'était pas après 2, hein, c'était 3, 4 et plus. Et puis après, je suis tombée sur un témoignage d'une femme après 7 césariennes. De fil en aiguille, j'ai découvert des choses incroyables. Et je me suis dit, mais en quoi est-ce qu'on est différente? Non, on n'est pas différente, c'est juste qu'on n'a pas le même accès à l'information.
Oui, c'est clair.
Et que, oui, quand on a eu une césarienne, on a très peu de ressources, en fait. On a une ressource qui est donc une association qui fait un très bon boulot, mais qui est très dans le médical. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a donc une partie de l'information qui est tronquée.
Ouais.
Au moins, on a une partie de l'information qui est tronquée, c'est-à-dire qu'on fait comprendre qu'il faut avoir une autorisation de voix basse. Et que il faut avoir donc activé tous les drapeaux les plus verts possibles, en fait. Donc le moindre petit pet de travers, et c'est non, ce sera, on va vous le refuser, alors que non, bon sang, non. La seule personne qui a le droit de dire ce qu'elle veut, sauf urgence vitale, je le rappelle évidemment.
Mais non, mais même en cas d'urgence vitale, enfin à un moment donné, enfin tu vois, c'est ton corps, quoi. Enfin, et donc. Bon, a priori, t'as pas envie de mourir, mais bon, enfin, même en cas d'urgence vitale, je trouve que la question reste, quoi.
C'est ça. Et en fait, ce que je trouve important de souligner aussi, quand on fait un parcours et qu'on, comme ça et qu'on chemine vers une naissance autonome, c'est que, d'une, effectivement, ce n'est pas un caprice, c'est vraiment quelque chose qui est pensé, réfléchi, etc. Et on est capable d'assumer toutes les conséquences aussi, c'est-à-dire que forcément, on se pose des questions sur la mort et on se rend compte que la mort et la naissance sont les deux événements les plus incontrôlables qui soient. Plus on veut contrôler, plus ça part en cacahuète.
Et on est bien plus informé et bien plus éduqué et bien plus tout ce que tu veux que les personnes qui suivent juste le chemin dicté par la société. Et quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur. Les personnes qui ne réfléchissent pas en dehors du système, elles ne le font pas soit parce qu'elles n'ont pas de temps, soit parce qu'elles n'ont pas la disponibilité mentale, soit parce qu'elles n'ont pas les disponibilités financières ou autres. Enfin voilà, il n'y a aucun jugement de valeur, mais le fait est que ce n'est pas parce que tu réfléchis autrement que tu es plus bête ou plus bizarre ou plus dangereuse, bien au contraire. On arrive à la fin de notre conversation, Perrine. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie qu'on aborde avant qu'on se quitte?
Pas particulièrement, non. Je crois qu'on a fait le tour. Juste, encore une fois, que les femmes se rendent compte que la seule décisionnaire, c'est elle. Point. Peu importe ce qu'on leur dit. La notion de hiérarchie médicale et d'autorité médicale, elle est extrêmement présente dans beaucoup, beaucoup de pays. Mais il faut vraiment se rappeler qu'on sait nous-mêmes aussi ce qui se passe dans notre corps. Il ne faut pas oublier que c'est notre corps et qu'on sait ce qui se passe. Et que si, peut-être qu'on a perdu beaucoup de nos instincts, je dis bien peut-être, mais en tout cas, le seul dont je suis persuadée qu'on n'a pas perdu, c'est notre instinct de survie. Donc, clairement, notre corps et notre mental va être prêt à comprendre et à capter qu'il y a quelque chose qui cloche.
Après, il faut faire attention parce que toi, tu as eu cette impression-là et en fait, tu es juste dans une phase de désespérance. Donc, c'est-à-dire que oui, il faut faire confiance à son instinct, mais il faut aussi s'éduquer fort et il faut aussi être accompagné émotionnellement. Et enfin, voilà, c'est tout un truc. C'est plus profond que ça. Enfin, c'est plus complexe.
Oui, après pour moi, je sais que je n'étais pas en danger quand j'ai dit on part à l'hôpital en fait. J'étais dans cette phase de désespérance, donc c'est pour ça que je dis que c'est différent. C'était pas une alarme rouge en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, j'avais juste besoin qu'on détourne mon attention en fait. C'était pas, j'ai dit on y va, mais c'est comme quand en phase de désespérance, tu dis je veux la péridurale. Au fond de toi, tu la veux pas, tu le sais que tu la veux pas. Mais c'était la phrase qui sort où le je vais mourir. Tu sais que tu vas pas mourir. Au fond de toi, tu sais que c'est pas le cas.
Oui.
Mais en fait, c'est des mots qui sortent comme ça.
Oui.
Donc, mais peut-être qu'il faut... j'ai dit ça, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais.
Non, et peut-être qu'il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas écouter quand on dit des choses comme ça.
C'est enfin, ça.
Ce n'est pas qu'il ne faut pas écouter, il faut prendre en considération, mais il faut avoir l'accompagnement nécessaire, quoi.
Et oui, c'est ça, c'est tout un travail.
Bon, mais merci beaucoup, Perrine. C'était tellement acrobatique, cette conversation.
C'est ça, merci beaucoup, cet épisode épique.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.